Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver une quatrième semaine. Bien sûr, tous les mois, nous avons rendez-vous avec Art Bâton Rompu, cette petite émission que nous faisons pendant une heure et demie et dans laquelle j'invite un certain nombre de grands connaisseurs dans l'art. Aujourd'hui, je reçois Diane Jantet, qui est créatrice de bijoux à Paris, au sein d'une maison familiale, et le thème est une maison de famille, une joaillerie étincelante depuis quatre générations. Bonjour Diane.
Bonjour maître.
Alors, et Diane est en fait l'arrière-petite-fille d'un certain Louis Jantet, si je ne me trompe pas, qui en 1901 a commencé le début d'une grande saga familiale.
Tout à fait, c'est bien ça.
Donc, une saga familiale. Donc Louis, Daniel, Marion et effectivement maintenant notre chère Diane.
Tout à fait, voilà, quatre générations de l'arrière-grand-père à moi aujourd'hui. Donc vous connaissez déjà, vous connaissez trois générations.
Oui.
Vous avez travaillé aussi avec ma grand-mère ou pas ?
J'ai bien connu, c'était Claude.
Claude,
oui.
Tout à fait.
Vous avez les yeux de votre grand-mère d'ailleurs et vous avez la voix de votre mère. Donc vraiment, on parle d'une vraie famille. Oui, j'ai bien sûr connu votre ravissante grand-mère, une petite dame toujours aussi bien habillée que pomponnée.
Toujours aujourd'hui d'ailleurs.
Et oui, et comme ma mère disait toujours, une femme doit rester attrayante et doit être attrayante. Et votre grand-mère reflétait vraiment la féminité même au sein même de ces vitrines par lesquelles elle admirait les bijoux à l'hôtel Drouot, car ça a été une grande passionnée. Alors on parle à bâton rompu, effectivement, on parle déjà de votre grand-mère, on peut parler d'ailleurs de votre arrière-grand-père, mais on reviendra bien sûr à votre charmante grand-mère.
Oui, tout à fait.
Alors votre famille est du Jura, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Tout à fait, la famille Jantet vient du Jura, à Saint-Claude plus particulièrement. Donc c'est là-bas que Claude Jantet, que Louis Jantet taillait des pierres.
Son père.
Alors non, Claude c'est la femme de Daniel.
Ah c'est voilà. Donc pardon. C'est la génération voilà.
Exactement.
C'est ça.
Donc dans la famille Jantet il y a Louis Jantet, Daniel Jantet le fils. Et ma mère Marion Jantet, donc la fille de Daniel et Claude.
Et Claude oui c'est ça voilà.
Voilà.
Et alors Claude par rapport à Louis alors par rapport il y a eu Louis pardon. Daniel. Et Daniel, lui, comme épouse
Claude.
Claude, voilà, c'est ça. Très bien.
Tout à fait.
Et donc, j'ai connu votre grand-mère, qui existe toujours, bien sûr.
90
ans aujourd'hui.
Enfin, elle l'a eu.
Il y a quelques jours,
oui,
bien sûr. Et donc, oui, je me souviens très bien d'elle, cette femme avec sa petite loupe à ajuster pour voir les pierres. Et donc, oui, parce que je parle de pierres, on peut parler effectivement du Jura, parce que c'est là où ça a commencé.
Tout à fait. Le Jura est connu pour ses tailleries de pierres et le travail de lapidaire, justement. Et c'est là-bas que Louis Jantet a commencé son métier et qu'il l'a emmené ensuite à Paris. Donc, ce qui est assez drôle aujourd'hui parce que... 23 rue de Châteaudun, j'ai retrouvé une facture sur internet de Louis Jantet qui date du 31 janvier 1914 où justement c'était un confier de pierre qu'il allait ensuite tailler.
Et pendant la guerre de 14, il était à travailler ? Vous ne savez pas du tout ?
Je ne sais pas du tout.
Ah, il faudra demander à votre grand-mère.
Faudrait que je demande
peut-être
à
maman aussi.
Oui, peut-être que maman.
Oui, parce qu'il y a des traditions familiales professionnelles et puis la vie familiale.
Exactement.
Hein.
Mais
et
c'est
tout
vrai
ça est imbriqué.
Comme Daniel était plus âgé que Claude, il y a quand même un écart générationnel qui fait que Daniel est décédé quand j'avais 10 ans. Donc je l'ai connu, mais j'ai beaucoup plus connu Claude.
C'est vrai. Bien sûr.
Mon histoire familiale, je l'ai...
Oui, parce que votre grand-mère avait épousé donc le fameux Daniel.
Tout à fait.
Et qui était plus âgée que lui. Plus âgée,
d'accord. Vous avez 20 ans d'écart.
D'accord, 20 ans d'écart. Ben, ça n'empêche que ça ne se voit pas dans les bijoux, n'est-ce pas? Alors donc, il y a Louis, donc, qui est tailleur de pierre.
Tailleur de pierre.
Importateur ou c'est plutôt Daniel alors?
Non, justement, c'est Daniel qui s'est spécialisé dans tout ce qui était négociation de pierre. Et c'était surtout l'émeraude. Mais il était vraiment spécialisé dans l'émeraude.
Alors, je vous rappelle que l'émeraude est une pierre précieuse, verte, pour ceux qui ne le savent pas. Généralement, elle est verte. Enfin, elle est toujours verte.
Elle est toujours verte, l'émeraude.
Ce n'est pas comme un saphir qui peut être d'une autre couleur.
Exactement. Non, l'émeraude est toujours verte.
Voilà.
Donc lui, il était vraiment spécialisé donc dans l'émeraude. Il avait repris la taillerie au décès de... C'est au décès de son père, justement, qui s'est plongé vraiment dans ce métier. Mais c'est vrai qu'être lapidaire, ça ne l'intéressait pas trop. Il préférait justement...
Le négoce.
La négoce, exactement.
Et donc, il s'est mis à... Il est parti du Jura.
Et alors déjà, Louis faisait des allers-retours entre la vente des pierres et la taille
à Saint-Claude. Bien sûr, l'origine de taille, oui.
Exactement. Mais Daniel est resté à Paris. Il habitait à Paris.
Et votre grand-père avait beaucoup d'employés? Votre arrière-grand-père? Vous ne savez pas.
Je ne sais pas. Encore quelques questions à creuser.
Oui, c'est pour ça. Alors, on fera peut-être une émission avec votre maman qui a été empêchée aujourd'hui, mais on refera sûrement une émission parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et puis, beaucoup de choses à dire à nos auditeurs qui sont souvent des gens qui peuvent avoir chez eux ou dans des coffres-forts des pierres qu'ils ne connaissent pas. Et ça, on en reparlera parce qu'il y a des belles solutions que vous pouvez nous proposer tout à l'heure. Mais on continue avec Daniel. Donc Daniel, lui, prend ses jambes et va donc à Paris au 23 rue de Châteaudun.
Donc voilà, il a démarré au 23 de rue Châteaudun. Et alors, il y a une bonne partie de sa vie aussi que je ne connais pas forcément, mais je sais qu'il était négociant en pierre, spécialisé dans les émeraudes. Et Marion, tout naturellement, l'a rejoint à 18 ans.
Marion, votre mère, il faut bien préciser.
L'a rejoint à ses 18 ans.
Daniel, Marion et maintenant Diane.
Et maintenant Diane. Il y a Claude en parallèle.
Ah oui, bien sûr. La mère de Marion. Et votre, à propos, votre grand-mère s'intéresse toujours?
Ah, toujours.
Elle n'arrête pas?
Non, elle a jamais vraiment arrêté. Ouais. Mais c'est grâce à Daniel qu'elle a découvert ce métier.
Ah.
Donc avant, elle...
À son mari.
Exactement, avant, elle travaillait en tant que vendeuse dans les grands magasins. Et rencontre de Daniel...
Je me souviens lui avoir posé la question. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans les grands magasins.
Voilà, exactement.
Elle a rencontré donc son mari.
Exactement, qui a éveillé chez elle un intérêt à l'art... à l'argenterie, beaucoup, et aux bijoux anciens. Donc c'est vrai que sa spécialité, à Claude, c'était les bijoux anciens et l'argenterie.
Oui, parce qu'elle avait une boutique.
Elle avait une boutique rue des Saint-Pères.
Rue des Saint-Pères.
Tout à fait.
Voilà. Alors, le mari était donc arrivé rue de Châteaudun, sa femme a eu un magasin...
Rue des Saint-Pères.
Rue des Saint-Pères, et après vous êtes installée, votre maman...
Là où on est aujourd'hui.
Marion.
Oui.
Alors, dans le prolongement de la rue de Châteaudun, rue Lafayette.
Rue Lafayette. Et c'est en réalité, Daniel, c'est Daniel qui s'est installé d'abord là-bas. Ah. C'est un endroit qu'on occupe toujours, où on est toujours. Mais donc, la première personne à avoir ouvert un bureau là-bas, c'est Daniel.
Ah, il avait déjà un bureau là-bas.
Voilà. Donc, une fois qu'il a quitté Châteaudun, il est venu rue Lafayette. Et c'est là qu'on est toujours. Et d'ailleurs, les bureaux que l'on a sont ceux d'origine. Daniel travaillait dessus. On a beaucoup, beaucoup de vieilles balances. Enfin, il y a dans les tiroirs, il y a vraiment des reliques.
Effectivement, quand on rentre dans votre atelier, si je puis dire, ou tout au moins dans la réception de votre atelier, effectivement, on voit des objets de famille. Et l'immeuble date de quand ? D'après vous, peut-être, enfin, la transformation, parce que j'ai l'impression que...
Il y a eu un étage qui a été rajouté.
Qui a été rajouté, et donc, il faut beaucoup de lumière, et c'est vrai qu'en allant au sixième étage du
56.
Du 56, à chaque fois je verse, du 56 rue de Châteaudun, vous verrez, vous êtes comme un beau window des années 20 ou 30, et là, on va en parler après. Mais on continue, alors, avec Claude. Donc, elle a ouvert son commerce en quelle année, à peu près, vers... moi, je l'ai connu dans les années 75.
Marion est née en 62, donc c'est ça, aux alentours des années 60, je dirais.
Oui, d'accord. Donc,
70.
Et elle a fermé son magasin quand, alors ?
Elle est partie à la retraite.
Là, quand elle est partie à la retraite, il y a au moins 20 ans.
Une vingtaine d'années, oui. Tout à fait.
Mais aujourd'hui, vous voyez souvent votre grand-mère qui vous donne des conseils, alors ?
Toutes les semaines.
Toutes les semaines, ouais.
Et de part, elle me lègue beaucoup de ses vêtements, comme vous avez pu dire qu'elle était très,
c'était
très soigneuse.
Très soigneuse, oui. Mm-hmm. Très, très élégante.
Ses bijoux aussi, on parcourt toujours des expositions ensemble.
Elle continue.
Elle continue, oui, oui, elle continue.
Il y a longtemps que je n'ai pas vu à Drouot, mais enfin...
Ouais, de temps en temps.
De temps en temps quand même.
Oui, ouais. Oui, de temps en temps.
Donc, elle venait souvent à l'hôtel Drouot pour...
très, très souvent.
Pour voir d'abord ce musée éphémère. J'engage bien sûr tous nos auditeurs à faire un tour de cet endroit magnifique. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me joindre pour qu'on puisse faire le tour de ce musée qui, tous les 48 heures, fait une vente. Et en moyenne, il y a 4 à 6 000 personnes qui passent à l'hôtel Drouot. Vous avez une exposition un jour ou deux jours et une vente le troisième jour. C'est la plus vieille institution en France en ce qui concerne les ventes publiques. Alors, bien sûr, tout le monde s'y précipite et puis on a comme ça des clins d'œil avec des clients charmants et qui vous posent des questions, vous en tant que professionnel, et eux-mêmes s'interrogent sur les pierres. Alors, votre maman s'est intéressée aussi aux pierres,
oui,
comme votre grand-père,
elle
Daniel.
A toujours été baignée dedans, en réalité, entre son père, sa mère. C'est vrai que les affaires ne restaient pas qu'au bureau. En réalité, ils parlaient l'un et l'autre du travail à la maison, parce que ça reste un métier de passionné. Donc, forcément,
oui.
on parle quand même très régulièrement travail, même en dehors des horaires de bureau. Et c'est vrai qu'elle a toujours vu son père ou sa mère... analyser des pierres, voir des... Elle a vu de très beaux bijoux, elle était dans la boutique de sa mère aussi, donc forcément...
Parce que Daniel avait aussi une boutique ?
C'était un bureau.
Ah, c'était un bureau.
Il faisait essentiellement du professionnel.
D'accord.
Il vendait pas de pierres aux particuliers. C'est vraiment la négoce de pierre.
D'accord. Et votre grand-mère, elle, qu'est-ce qui l'a fait tourner, je dirais, vers le magasin et le commerce ? Une spécialité ou...
C'était l'argenterie, beaucoup.
Au départ,
et
oui.
Et bijoux anciens aussi. À force d'aller à Drouot, de voir des choses, acheter, parce que pour elle, ça a toujours été un jeu aussi, ce métier. Elle a toujours dit, j'ai fait des très bonnes affaires, j'en ai fait de moins bonnes, mais j'ai toujours pris énormément de plaisir à faire ce métier. J'ai vu beaucoup de choses aussi, beaucoup de très belles choses et de beaux objets. Et elle a appris beaucoup parce qu'elle partait de rien pour être expert en argenterie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à connaître. Même moi, je n'en connais pas, je pense, 5% de ce métier-là. Donc c'est vrai que j'ai toujours vu quelqu'un de passionné par son travail et qui aimait le beau. Et je pense que ça l'a bien, bien aidé dans sa réussite.
Oui, je pense qu'effectivement, de voir, grâce à Dieu, nous avons des yeux et de pouvoir admirer des pierres, pas forcément en les connaissant au départ, mais après on s'habitue, on essaye de rentrer dans la pierre, c'est le cas de le dire. Et votre grand-mère collectionnait ? Ou collectionne
Non, pas
en tant que telle. Alors, est-ce qu'elle a des préférences?
Elle a toujours aimé les bijoux art déco.
Oui, très bien.
Après, préférence, je ne sais pas. Je lui poserai la question.
D'accord. Comme ça, vous me donnerez la réponse à une prochaine émission quand on sera avec votre maman Marion.
Mais c'est vrai que quand je vais chez elle, ça n'a pas bougé. C'est toujours le même appartement, la même décoration, la même argenterie. Et il y a toujours eu ce plaisir aussi à nous parler des objets qu'elle avait pu voir, des objets qu'elle avait pu vendre aussi, des poinçons qu'elle avait pu trouver. Enfin, c'était,
oui, des découvertes.
Des découvertes.
Et exactement. Alors, elle vous reçoit au milieu de son argenterie, avec son argenterie.
Toujours.
Voilà.
Les verres en cristal.
En cristal, toujours, une belle vaisselle.
Exactement.
Un bel intérieur.
Toujours.
Très bien. Donc, elle est rue des Saints-Pères. Et puis, votre maman arrive.
Oui.
Alors, votre maman arrive. Alors, dans quelles conditions, alors ?
Oh, enfin, dans le travail.
Dans le travail, oui.
Eh bien, à ses 18 ans, après avoir passé son bac, elle a rejoint son père. Parce que c'était, je pense, l'appel des pierres a été très fort. Bien évidemment, elle a fait sa gémologie.
Donc, elle a des frères et sœurs, votre maman ?
Elle a, une grande sœur et un petit frère. Les trois sont dans les bijoux.
Ah,
oui.
Et tombés dedans ?
Les trois, oui.
Et qu'est-ce qu'ils font, les deux autres, alors ?
Elle a un frère qui est aux États-Unis, qui continue, je crois. On n'a plus trop de nouvelles, mais dans les bijoux aussi.
Oui.
Elle a longtemps travaillé avec lui. Il est parti vivre aux États-Unis après, donc... Voilà. Et sa sœur est joaillière aussi. Elle a travaillé. Enfin, son mari avait la société Jorlan.
Oui.
Donc, une grosse société, pareil, de création joaillière sur la place de Paris. Et donc, elle travaille avec son mari. Et puis, aujourd'hui, elle est à son compte. Elle continue, pareil.
Très bien. Et donc, votre maman reprend les ateliers à ce moment-là ?
Alors, elle a repris la négoce de Pierre. C'était son premier métier. Mais petit à petit, lui est venue l'idée et l'envie, surtout, de travailler avec des particuliers. Et ouais. son père lui a toujours dit « Ah non, moi, je ne travaillerai pas avec des particuliers. Ce n'est pas mon métier. » Mais si tu veux aller travailler avec des particuliers, bien évidemment.
Et c'est peut-être, ça peut être complémentaire, mais c'est surtout un autre métier.
C'est deux métiers différents, voilà. Tout à fait.
Un lapidaire, c'est quelque chose, un tailleur de pierre, donc, et puis
un négociant,
et puis après, une pierre, ben, elle ne doit pas rester normalement inerte.
Inerte, non, hein, tout à fait.
Elle doit être montée. Et donc,
Il y a tout le design autour du bijou et ensuite la création en tant que telle, comme on la connaît en France, à Paris surtout, avec différents corps de métier. Entre autres,
citer.
Donc il y a le gémologue pour les pierres, voilà. Il y a le bijoutier joaillier donc, qui va designer la bague. Ensuite, il y a le fondeur, ou la fonte. Le bijou va ressortir de la cire à la fonte en or. Après, le joaillier va rattraper la fonte. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Ensuite, le sertissage des pierres.
Voilà.
Et le polissage, qui est un métier à part aussi, très important, parce qu'un très bon, un bijou qui est très bien poli, et ben c'est rien à voir.
Alors, parler du polissage, tiens, par exemple. Le polissage, c'est après que la pierre ait été taillée, mise sur, justement, son support,
oui. On
polit. Et ça,
En fait, une fois qu'il y a eu le sertissage, oui. C'est vraiment la dernière étape avant la livraison du bijou.
C'est un peu comme un bronze, avoir une belle patine.
Exactement.
Voilà.
Tout à fait.
Très bien.
Et on le voit, il y a tellement de brossettes différentes pour que le bijou brille vraiment.
Quand vous dites qu'il y a plusieurs recettes, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le polisseur, il va utiliser différents outils pour faire briller la bague. Et ça va être des brosses plus ou moins dures, plus ou moins souples. Et ça ne va jamais apporter la même chose. Enfin, il y a vraiment tout un savoir-faire. C'est un métier à part. C'est ce qui est important de savoir en joaillerie, c'est qu'une personne qui fait tout, c'est rare aujourd'hui. Il faut s'entourer de très bonnes personnes et de très bons artisans en réalité.
Oui, parce que ce sont des métiers complémentaires et très spécifiques.
Exactement.
Hein, un gémologue, ce n'est pas un sertisseur.
Non.
Voilà.
Et un lapidaire d'ailleurs n'est pas
un lapidaire, sertisseur. Exactement. Tout ça, c'est... Ce qui a fait et ce qui continue d'être fait avec justement ces différents corps de métier et je dirais ces corporations, ces anciennes corporations qui sont complémentaires.
Oui, tout à fait.
Voilà, un cuisiniste, le cuisiniste, il fait pas forcément la taille des bois, les plaquages, etc.
Ben,
dans votre métier, c'est la même chose.
La même chose.
Donc. En fait, vous avez, alors à votre niveau, parce que alors, votre maman, effectivement, elle n'a pas fait de négoce en tant que telle avec sa mère.
Non. Ça reste quand même deux métiers différents, c'est-à-dire antiquaire, bijoux anciens et argenterie et création joaillière, c'est quand même deux métiers complètement différents.
C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes passé à la fois du négoce au départ, à un négoce d'antiquité et aujourd'hui de la création.
Tout à fait.
Voilà. Là, on a parlé d'un terme, effectivement, anglais. Ici, il y a un petit cochon. Quand on parle anglais, on doit mettre une petite pièce. Mais le terme design est un terme qui est rentré dans le vocabulaire français parce que, effectivement, c'est une époque où tout au moins ça caractérise à la fois une invention et une technique rapprochée pour une création. Alors vous avez donc votre maman qui, elle, voit sa mère antiquaire, en bijoux anciens, et puis après, elle s'est dit, je vais faire de la création.
Création, mais en fait, elle a quand même plusieurs facettes, Marion. dans l'expertise du bijou, du coup, les bijoux anciens, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui viennent avec leurs bijoux de famille. Et il y a quand même cette expertise qui a été importante de par ses études, mais aussi tous les bijoux qu'elle a pu voir avec sa mère pendant des années. Et donc, il y a toute l'expertise que l'on peut faire également. Donc, en fait, elle est créatrice joaillière, mais il y a...
Un antécédent familial qui fait qu'elle sait identifier, bien évidemment, un bijou ancien.
Exactement.
Alors, en fait, elle restaure, elle répare.
Transforme.
Moi, je
aussi.
Vous connaissez plusieurs générations de ma famille qui sont venues chez vous pour, justement, restaurer. Je crois que, justement, il ne faut pas que les objets restent dans des coffres-forts. C'est un petit peu quand on a un héritage moral ou spirituel, il faut le passer et donc il faut le valoriser. Et donc, mesdames et messieurs les auditeurs, sortez de vos coffres-forts vos bijoux pour savoir ce que vous avez. Parce que on sait ce qu'on a en disant c'était au grand-père, mais après, on ne restaure pas forcément un bijou. Parce qu'on ne le connaît pas, et effectivement, une dynastie de quatre générations de joailliers, on va dire ça, le terme en quelque sorte.
Maison joaillière.
La maison joaillière, maison familiale, eh ben, peut vous redonner vie à vos bijoux et vous donner des indications très précieuses sur justement peut-être l'origine des bijoux.
Et puis de toute façon, c'est très important, même on parle beaucoup de transmission dans notre. Que ça soit. Culturelle, en termes d'éducation aussi, d'apprentissage dans ces métiers. Mais la transmission, elle se fait aussi par les bijoux donnés, offerts par les grands-mères, par les arrière-grands-mères, par les parents. Et un bijou, il a besoin d'être révisé, il a besoin d'être restauré, de vérifier que l'on ne va pas perdre une pierre de famille importante. Donc, c'est quand même très important de faire vérifier en fait, les bijoux que l'on a pour savoir ce que l'on...
Ce
que l'on a, et aussi si tout va bien. Une pierre qui bouge n'est pas normale dans tous les cas. Hein. Même pour les bijoux que l'on porte aujourd'hui, une bague un peu cassée, un peu fêlée, c'est pas normal. Une griffe qui a pu se soulever parce que ça reste un travail artisanal. C'est un travail. Une pierre normalement est sertie par quelqu'un. Donc avec le temps, ça peut forcément s'user. Et c'est toujours bien de faire vérifier ces bijoux.
Parce que en fait, le bijou se porte.
Exactement.
Voilà.
Comme une voiture, quand même.
Voilà.
Il faut faire réviser.
Il faut faire des révisions.
Voilà.
Et c'est très important. Par exemple, un collier de perles, j'ai fait une émission avec la famille Portier, grande dynastie d'experts. Eh bien, les perles, il faut les renfiler. Donc,
il faut les renfiler, vérifier que les perles ne sont pas mortes avec le temps, voir s'il ne faut pas en changer. Enfin, voilà,
parce que souvent, les femmes se parent de leur... collier de perles, mais mettent aussi du parfum.
Exactement. Et les perles détestent le parfum.
Voilà. Oui, c'est une information qu'il faut donner à nos auditeurs. On peut aimer les parfums, mais contre, les perles ne les apprécient pas du tout.
Les crèmes non plus, en général.
Et les crèmes non plus. Donc, il faut faire attention la façon dont... Alors, comment faites-vous, alors, vous ? Vous mettez d'abord votre crème, vous attendez 2 heures et vous mettez votre collier ?
C'est vrai que là, par exemple, le collier que je porte, je le mets sur un pull et je vais avoir tendance à pas forcément de mettre de parfum directement au niveau de mon pull
effectivement.
Pour les perles, donc à même la peau. Mais quand on porte un collier de perles à même la peau, il vaut mieux éviter de mettre du parfum sur son cou à ce moment-là, peut-être sur les avant-bras.
Décrivez votre collier, parce qu'en fait, c'est une de vos créations.
Oui, alors là, c'est des perles à Akoya.
C'est-à-dire
Alors, il y a différentes perles.
Oui.
Donc, il y a les perles d'eau douce, les perles à Akoya, et après, vous avez les perles fines aussi.
Et Akoya, c'est pourquoi Akoya ?
C'est des perles japonaises.
C'est japonais.
Exactement.
D'accord.
Les perles d'eau douce, c'est plus des perles que l'on trouve en Chine.
Oui.
Et Akoya, on est venu.
L'enveloppe.
On n'est pas trop intervenu dans la création de ces perles. Les perles fines, on n'intervient pas du tout. Une perle Akoya, on peut intervenir, mais c'est vrai, les perles d'eau douce, ça va être des. C'est en Chine, là, on intervient vraiment dans leur création. Elles sont beaucoup moins rares. Par la Akoya,
une
certaine brillance aussi.
Leur brillance est différente.
Exactement.
Alors là, vous avez donc un collier alterné sur or, argent.
C'est une chaîne or blanc. Une chaîne qu'on appelle Força Diamantée.
Oui, c'est-à-dire ces deux anneaux.
Avec des facettes qui brillent.
Exactement.
La lumière réfléchit bien.
Et qui donne justement un aspect encore plus précieux
exactement,
du collier.
Et là, on a interverti les perles avec des perles de diamants noirs.
Oui, c'est des diamants noirs. Donc,
c'est,
elles sont à facettes.
Diamant noir. Oui, c'est, tout est faceté. C'est vrai que là, c'est pas le diamant classique taille brillant qu'on peut retrouver sur des bagues, mais là, c'est des perles de
diamants
noirs. On pourrait croire que c'est de l'onyx, mais pas
oui,
ici.
Pas tout à fait, mais c'est effectivement ravissant. Le collier, c'est une chose, mais le bijou, d'une manière générale, c'est très féminin.
Oui, mais c'est vrai que on adore les perles. Je ne sais pas si c'est un rapport avec, pareil, la transmission, l'héritage d'avoir des colliers de perles dans sa boîte à bijoux. Mais c'est des bijoux les perles, on aime bien les travailler et leur redonner un petit côté un peu plus moderne. Et on a souvent des clientes qui viennent justement pour transformer leur collier de perles et pourquoi pas en offrir à leur fille ou à leur petite fille. Et c'est toujours assez chouette de se dire que ce bracelet a pu appartenir ce collier a pu appartenir à l'arrière-grand-mère et aujourd'hui la petite fille le porte autour du poignet, comme ici par exemple, autour du poignet avec une petite chaîne.
Effectivement, vous avez un petit
bracelet aussi
en or jaune avec des petites mailles.
Pareil, c'est de la chaîne de Força Diamantée. Et les perles, c'était les perles du collier de perles de ma grand-mère mais paternelle. Quand elle est décédée, on en a fait un pour ma tante et pour ma sœur.
C'est ça qui est très touchant. Vous voyez, je suis en train de faire un inventaire sans le vouloir. et notre chère Diane porte une très jolie montre en même temps. Oui. Et là aussi, c'est un souvenir de famille.
Bah, c'est une montre Poiret que ma mère avait offert à mon père, qu'il m'a gentiment offert
c'est
et
touchant.
Que je porte avec grand plaisir.
J'espère avec que plaisir. Cette émission va vous donner des idées pour... Regardez un peu ce que vous avez dans vos coffres-forts. Surtout, regardez ce que vous avez sur vous en disant, finalement, il va peut-être falloir que je fasse une révision. Je ne suis pas là pour faire de la publicité pour la famille Jantet, mais surtout pour conserver, préserver et restaurer des beaux bijoux.
Et transmettre aussi.
Et surtout transmettre. Alors, dans la transmission, on va faire une petite pause. Nous avons des musiciens qui nous ont beaucoup intéressés durant toute notre vie, que ce soit la nôtre, nos parents, nos grands-parents. Et là, je vais vous parler en quelques instants d'un morceau de musique, plus exactement d'une composition d'un certain Johann Caspar Kerl II, Kerl, tout simplement, qui est un compositeur et organiste allemand de la période baroque, puisqu'il était né en 1627 et il est mort en 1693. Donc un ton contemporain de la famille Bach, et on va écouter ce très beau morceau de musique qui va, j'espère, vous détendre un petit peu. Il s'agit donc d'une passacaille. Chers amis, je poursuis cette émission, Olivier d'Outrebente. Cette émission s'appelle, bien sûr, vous vous en souvenez, Art bâton rompu, un petit jeu de mots. Art parce que nous sommes passionnés par justement cette grande discipline créatrice d'invention et d'enthousiasme et de thérapie qu'est l'art en général. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans une émission pour lequel le thème est le suivant, une maison de famille, une joaillerie étincelante depuis 4 générations. Je reçois aujourd'hui Diane Jantet, qui est la 4e génération de lapidaire, bijoutier, antiquaire en bijoux et aujourd'hui créateur. Je rappelle que Diane a eu son grand-père, son arrière-grand-père, Louis, qui était dans le Jura dans les années 1900-1920. Son fils, Daniel, et qui lui est venu à Paris, et pas monté à Paris, mais qui a pris le train pour arriver à Paris et s'installer, lui, comme
négociant
en pierre. Et puis son épouse, qui était férue de pierre et également de bijoux et d'argenterie, que j'ai bien connue et qui venait à l'hôtel de Rouault, je dirais, quotidiennement. Sa fille Marion, qui aujourd'hui à la fois fait de la création, de la transformation et de la réparation de bijoux, et aujourd'hui Diane. Alors Diane, on continue, on poursuit.
On poursuit.
On va parler de maman. Alors parlons de Marion.
Marion.
18 ans.
Donc à 18 ans, elle a rejoint son père. Donc elle s'est spécialisée déjà dans la négoce des pierres. Donc, elle a commencé comme toute personne qui commence dans les pierres à trier. Trier, regarder, analyser, parce que c'est quand même un métier où on a besoin de voir beaucoup, beaucoup de pierres pour les comprendre.
Et la comparer.
Exactement. Mais petit à petit, elle aimait travailler avec les professionnels, mais elle a toujours eu ce coup de dessin, ce coup de crayon. Elle a toujours aimé dessiner. Et petit à petit, elle s'est dit que ça serait bien de prendre la main et de créer des bijoux.
Création.
Exactement.
D'accord. On crée d'abord. Et donc, elle s'y est mise tout de suite
Petit à petit, parce que quand on vient dans ce monde de création, il faut pouvoir créer un stock de bijoux pour pouvoir les présenter. Et donc, elle a créé des collections petit à petit.
Mais au départ, elle travaillait avec votre maman?
Non, avec ma grand-mère.
Oui.
Non.
Votre grand-mère, pardon.
Ma grand-mère lui a apporté justement des clients particuliers pour tout ce qui était restauration, transformation des bijoux.
Et voilà. ça l'a incité à se dire, je vais faire de la création.
Exactement.
Donc elle dessine.
Elle dessine.
Elle continue de dessiner, votre maman.
Elle continue et je l'ai rejoint dans le dessin. Mais c'est elle qui fait les gouachers, c'est pas moi.
Oui, voilà.
Pas encore.
Alors, on peut expliquer ce qu'est un dessin de joaillerie.
C'est un dessin, à la gouache.
Mais sur papier calque, généralement. Moi, je vois
généralement,
souvent ça.
Oui, papier calque. Après, ça peut être du papier canson aussi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'archives sur papier calque.
Ah oui.
Et c'est vraiment un...
Parce que ça donne un peu de profondeur.
Exactement.
Un papier normal, un papier d'arche, c'est comme un mur. Tandis que là, il y a une transparence, ça suscite que l'œil puisse regarder au-delà d'un simple dessin. Ça, donne une profondeur qui n'existe pas encore, mais qui permet quand même, par l'imagination du bijoutier, d'avoir une idée de ce que ça peut faire.
De ce que ça va donner, exactement.
Donc elle dessine,
et petit à petit, elle crée. Avec l'atelier, elle crée les bijoux. Donc elle voit ses dessins prendre vie.
Alors il y a deux sortes de création. Il y a la création d'un commanditaire.
Oui.
Et puis, il y a son imagination qui fait qu'un matin, elle arrive au bureau en disant « je suis pressée, j'ai besoin de faire un dessin ».
Exactement.
C'est un peu ça.
Souvent, hein, encore aujourd'hui, j'arrive, il y a quelques... Alors, une chose est sûre, on part souvent des pierres pour créer nos collections. Et donc, très régulièrement, j'arrive au bureau et il y a des pierres qui ont été assemblées les unes autour des autres. Et puis après, on en discute et elle me dit « j'ai pensé à ça ». Après, pareil, hein, j'ai le même processus. Ça va être,
Parce que vous faites, Diane, la même chose que votre maman.
Je fais la même chose.
Vous faites la même chose.
Elle m'enseigne la même chose.
Elle vous enseigne la même chose. Et donc, vous avez toujours On va revenir à maman, bien sûr. Et vous, vous avez toujours été capté par la création de votre maman ?
Oui, toujours.
Ouais.
Je me revois... Bah, déjà, j'étais beaucoup avec mes grands-parents. Donc, j'ai beaucoup été dans la boutique rue des Saints-Pères avec Claude.
Mmh.
Donc, j'ai eu cette éducation aussi, cet apprentissage par Claude des bijoux anciens surtout. Je m'intéressais un petit peu à l'argenterie, mais surtout aux bijoux. Je l'ai toujours vu aussi porter des très beaux bijoux.
Oui, c'est vrai.
Donc, j'ai toujours eu cette attirance aussi pour le bijou. On m'a toujours appris aussi, on m'a toujours expliqué, ça c'est une émeraude, ça c'est un saphir, ça c'est du diamant. On m'en a toujours parlé, en réalité.
Plus des pierres semi-précieuses, qui sont quand même une grande majorité, mais qui, au 19e, par exemple, ont fait vraiment la gloire des bijoux. Je ne parle pas de ceux qu'on va retrouver, bien sûr, au Louvre, nous espérons, mais beaucoup de pierres, pas des pierres d'imitation, vraiment de la pierre semi-précieuse.
Oui, des pierres fines, oui.
Des pierres fines,
oui.
Voilà.
Et donc, il y a toujours eu... Alors, en plus, je pense que ça, c'est grâce à Daniel, un attrait pour la pierre de couleur.
Oui.
Donc, déjà, l'émeraude, c'est quand même un vert très intense et c'est des très belles pierres. Et c'est vrai que Marion, elle a toujours... mis des pierres de couleur dans ses créations. Elle a toujours incorporé, que ça soit du saphir rose, du saphir jaune, des diamants. D'ailleurs, on les voit aujourd'hui réapparaître, les diamants bruns. Et c'est vrai que Marion, j'ai retrouvé des archives il n'y a pas si longtemps, de 2000, où elle mettait beaucoup de diamants bruns et de diamants blancs associés. Donc, c'est assez chouette de voir qu'il y a déjà 25 ans, c'était des pierres qui l'intéressaient et où elle créait des bijoux magnifiques avec.
La mode,
c'est modes, ça. Ça revient, mode, éternel voilà. Recommencement. Voilà.
Là, on le voit bien, même sur le marché de l'art, le marché des enchères, le diamant aujourd'hui est un peu en retrait par rapport à ce qu'il a été.
Couleur, oui.
Par rapport aux pierres de couleur. Moi, je me souviens des perles. Une vingtaine d'années, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, elles reviennent.
Elles reviennent en force.
Beaucoup.
Voilà. Ouais. La mode, c'est quelque chose de très important. Votre mère est influencée par la mode, parce que pour vendre, bien sûr, mais dans sa création.
Non, je pense pas.
Voilà.
Non,
ça,
c'est vraiment l'amour des pierres plus
et
les idées qui lui viennent. C'est pas parce que à nouveau le diamant brun, le diamant chocolat revient sur l'avant de la scène qu'elle va faire que des créations comme ça. On va plus ressortir les photos qu'on a pu faire pour montrer que on a déjà fait et qu'on continue parce qu'il y a des bijoux sur notre site actuellement qui ont plus de 25 ans d'existence. Donc c'est ça qui est chouette aussi.
Donc vous faites la même chose que votre mère, c'est-à-dire que vous faites un bijou sur mesure.
Oui.
Il y a un processus créatif pas à pas, d'après ce que je peux prendre comme note. On vous restaurait pour redonner vie aux bijoux de nos passionnés, et puis la transformation.
Tout à fait.
Alors, on peut reprendre un petit peu tout ça. Donc d'abord, avant tout, vous avez... Alors, il y a maman qui arrive et puis qui dit aujourd'hui, tiens, je prends quelques pierres, je vais les assembler, je fais de la création.
Il y a vraiment les collections, exactement. Donc, vraiment sorties de notre tête, des dessins, des idées qu'on peut avoir.
Et vous faites des expositions.
Oui.
Voilà, oui. Toutes les deux.
Toutes les deux. On expose, on expose au showroom.
Oui, bien sûr.
On reçoit sur rendez-vous.
Oui, bien sûr.
Et après, ça va dépendre aussi des opportunités qu'on a dans l'année. Mais oui, on expose et puis quand on reçoit nos clients, de toute façon, nos bijoux sont
exposés et donc ça attire effectivement
des
clients
en tout cas.
Et ça donne des idées. Alors la création, ça représente quoi aujourd'hui chez vous ?
Le sur-mesure et les transformations. Oh, c'est une très grosse partie de notre histoire. Enfin, c'est vraiment, on a beaucoup de personnes qui viennent justement pour soit créer sur mesure, soit transformer un bijou. Notamment encore plus avec le cours de l'or qui augmente
sans
cesse. Mais la transformation de bijoux, ce qui est très chouette, c'est qu'on va justement expertiser les bijoux pour pouvoir dire en effet là, c'est un saphir, c'est une émeraude, c'est un diamant taille ancienne. Enfin, voilà, mais on peut tout à fait le réutiliser et créer un bijou qui vous ressemble aujourd'hui en réutilisant l'or, en réutilisant les pierres.
Donc, vous avez des bijoux qui sont signés.
Oui.
Donc là, bien sûr, vous avez appris les belles maisons comme Belperron, Boucheron, Chaumet, des grands créateurs.
Mais ça, en général, on n'y touche pas.
Et voilà. Alors là, justement, il faut que nos auditeurs se disent « Ah, j'ai un beau bijou, mais j'ose pas y toucher parce que il vient de ma grand-mère. C'était la maison Boiron qui avait fait ça pour à l'occasion de tel mariage ou fiançailles. Mmh. » Et ben non, il faut aller justement chez la maison DM Jantet pour qu'on vous dise dans quel état on peut remettre le bijou sur pied, si je puis dire,
tout
ou
tout
sur
fait.
Doigt. Parce qu'effectivement, on utilise des bijoux comme on utilise ses mains, sans faire toujours très attention, et là, il peut y avoir des drames. Mais il faut de la restauration. Et vous voyez de temps en temps de très beaux bijoux,
de
belles signatures.
Oui, tout à fait.
Et donc,
il fait si longtemps, une belle broche Chaumet.
Oui.
Mais alors là, on était un petit peu triste parce que la broche avait déjà été
transformée. Modifiée.
Quatre des pierres avaient été retirées pour être offertes. Mmh. Et c'est vrai que refaire une broche comme celle-ci pour la remettre à neuf, ça aurait coûté vraiment beaucoup trop d'argent à notre cliente. Donc on l'a transformée. Mais donc il y a eu plein de bijoux qui ont été créés grâce à ces pierres, mais c'est vrai que parfois...
Oui, parce que ça vous donne des idées de voir un bijou type de telle année qui finalement n'a plus de sens parce que les pierres n'existent plus, et ça vous permet de rebondir dans une transformation.
Bien sûr, ouais. Il y a pas si longtemps aussi, on a eu un client qui avait une bague, c'était Mauboussin d'époque, avec un très beau diamant taille ancienne. Et là, en revanche, il a vraiment voulu modifier la bague pour en faire un pendentif. Mais ce que l'on a fait, c'est qu'on a préservé le corps de bague. Donc, c'est-à-dire que si un jour il veut le remonter en bague, il pourra.
Voilà le respect d'une...
De la signature.
D'une signature, voilà. Il faut savoir ne pas dénaturer. On peut transformer sans dénaturer. Et puis revenir à ses premiers amours, a priori.
Exactement. Mais bon... Le diamant était quand même très très gros, donc je peux comprendre que sa femme souhaitait porter autour du cou plutôt que
oui.
À la main.
Oui, parce que là aussi, la sociologie a quand même changé.
Exactement.
Et malheureusement, d'ailleurs, on voit de moins en moins de femmes porter de beaux bijoux, parce que par crainte et donc par sécurité.
Bon, là, ça va être l'hiver, avec les gants, ça va.
Oui, c'est ça.
Exact. Les écharpes et les gants, on peut un peu plus sortir avec nos bijoux et... Pouvoir aller...
Tout ça pour dire que y a donc un processus de création. Donc, vous m'expliquez qu'il y a la sélection des pierres.
Bah, quand on est le sur-mesure, en général, les clients n'ont ni pierre, ni... Alors, ils ont peut-être de l'or, mais ils n'ont pas la pierre centrale du bijou. Donc là, nous, on va s'adapter aussi à leur envie. En général, le premier rendez-vous est... C'est la présentation des pierres. On leur a demandé au téléphone qu'est-ce que vous souhaitez voir. Est-ce que c'est des émeraudes,
bleu,
des
vert,
saphirs,
jaune.
Du diamant.
Voilà.
Et donc, quand ils arrivent, il y a une première sélection qui est faite. Donc, soit il y a un coup de cœur pour une pierre, soit on continue le travail, on recherche encore d'autres pierres pour que ça soit le coup de cœur. Et ensuite, on vient, une fois que la pierre est sélectionnée, on va dessiner. Donc, bien évidemment, on en parle un peu avec la cliente, le client. Et on va dessiner avec eux. Alors aujourd'hui, la modernité fait qu'il y a ce qu'on appelle des 3D. Donc c'est des dessins 3D qui permettent à nos clients de vraiment se rendre compte des proportions de la bague. Et on va pouvoir imprimer ce qu'on appelle une maquette en cire ou en plastique. Ça va vraiment dépendre. Le plastique, c'est pour montrer... La cire, ça va être pour partir chez le fondeur en général.
Oui, généralement, c'est la dernière étape avant
avant la création, après
la décision.
Mais ce qui est important, parce que la cliente va vraiment se rendre compte de l'échelle du bijou sur son doigt, sur son cou, sur ses oreilles et des proportions que le bijou va avoir. On va pouvoir poser les pierres dessus, vraiment s'assurer que tout est bien conforme à l'idée qu'elles ont été faites. Et comme ça, après, on peut lancer la création et en général, il n'y a pas de surprise.
Est-ce qu'il y a une évolution dans l'exécution de la création aujourd'hui?
La 3D prend beaucoup de place,
oui.
Mais on travaille encore avec des personnes qui sculptent à la main les cires.
Ah oui.
Parce que tous les bijoux ne peuvent pas. Alors, compliqué, mais c'est vrai qu'il y a eu des grosses, grosses avancées en dessin 3D. Donc, même les volumes maintenant peuvent être mieux gérés. Mais c'est vrai que certaines bagues méritent juste d'être faites à la main.
Oui.
Et donc, il y a vraiment deux écoles, je dirais, la 3D et les cires à fond de plâtre.
Et puis en fonction aussi des clients, de leurs exigences et de ce qu'ils souhaitent.
Exactement.
Oui.
Exactement.
Donc on a le design du bijou, la fabrication artisanale, et donc là, c'est évidemment la sélection des pierres. Et là, vous avez, pour faire une bague, c'est quoi? C'est quelle moyenne de
De
temps?
temps, en général, quand le dessin est validé, 1 mois et demi, vraiment, pour être sûr que tout.
Oui, parce que
Voilà.
rappelez les étapes,
Ben, il y
vous.
a quand même, une fois que le dessin est validé, donc il y a l'impression de la cire ou la cire qui est créée à la main, il y a le fondeur qui va intervenir. Ensuite, il faut nettoyer la fonte, l'assembler parfois, mais. D'ailleurs, très souvent, assembler la fonte. Après, il y a le sertissage des pierres, prépolissage nécessaire avant le sertissage, le polissage. Et la gravure, si
Si.
gravure il y a.
Ces gravures, il y a.
Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'étapes pour créer un bijou.
Et donc, votre maman, comme vous, faites des créations, je dirais, tous les mois.
Ah oui,
C'est
oui.
ça.
Il y a des.
Vous
Oui.
êtes influencé un peu par la mode ou vous avez, je dirais, une école Jeantet que vous suivez depuis plusieurs dizaines
Bah,
d'années?
dans les collections, moi, je suis assez influencée, mais par ma mère.
Oui,
C'est.
d'accord. Vous
Donc.
regardez des expositions aussi, vous allez.
Bien sûr, des
Ouais.
expositions. Après, là, le fait que les perles reviennent, nous, on est contentes. C'est plus bah, chouette.
Oui,
La
parce que
mode
vous aimez.
est. Exactement. C'est plus. Ce côté-là de la mode où on se dit, bah, chouette, on va pouvoir recréer des bijoux avec des perles parce que les personnes vont s'y intéresser. C'est ça qui est. Ou les personnes vont ouvrir leur boîte à bijoux, vont se dire, ah, j'ai un collier de perles qui dort, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire plein de choses. Des
Vous
bracelets,
avez
des
une
colliers.
petite anecdote avec des surprises où on vous a apporté une chose étonnante ou pas vraiment?
Après, chaque bijou peut être étonnant. C'est plus. Là, hier, je sais qu'on a livré une bague. Bah, c'était une transformation. Parce qu'on réutilisait les diamants d'une alliance. On réutilisait l'or aussi. Et en fait, ma cliente m'a expliqué que les pierres venaient. Les diamants étaient. C'était l'alliance de son arrière-grand-mère. Et le modèle qu'on a créé, c'est une de nos collections, donc on a adapté. Donc c'est assez chouette de pouvoir aussi adapter des pièces que l'on crée avec des pierres qui appartiennent à nos clientes.
Oui, ça veut dire que votre génie inventif, entre guillemets, travaille en parallèle avec éventuellement des transformations
Bien sûr.
ou des objets que vous avez vus et
De
qui.
toute façon, peu importe le bijou de nos collections, tout est interchangeable, c'est-à-dire que la couleur de l'or, enfin, chacun est libre de choisir la couleur de l'or d'or qu'il souhaite. Les pierres également, si c'est des diamants présentés sur nos modèles et qu'ils préfèrent des saphirs, on met des saphirs, on sortit des saphirs.
Oui, donc
Y a
vous.
rien
Oui,
n'est
rien.
figé.
Voilà, rien n'est
Non.
figé. Tout peut s'adapter
Exactement.
dans une transformation.
Exactement.
Et donc là, vous préparez quoi comme collection là?
Là. On va s'intéresser au mariage
Ah.
beaucoup. Enfin, dans un sens, c'est une partie très
Importante quand même.
importante chez nous. Et
Bien sûr.
vous le savez bien.
Bien sûr, oui, je le sais.
Mais c'est vrai que le mariage, aujourd'hui, on crée beaucoup sur mesure. Donc, c'est plusieurs idées de nos clientes qui s'inspirent aussi de créations qu'on a pu faire. Mais ça peut être un solitaire classique, ça peut être une bague plus originale. Mais on n'a pas de collection vraiment arrêtée. Pour le mariage, alors qu'on en fait vraiment tous les mois. Donc là, l'idée, c'était de proposer quelques modèles de mariage, de bagues de fiançailles et des alliances peut-être un peu plus originales qui nous ressemblent, mais en sachant que on a toujours créé des alliances de mijons, des alliances, enfin, tout ce qu'il y a de plus basique, classique, on les crée aussi, mais.
Et les alliances, c'est assez compliqué quand même, parce que c'est très personnel, en fonction d'abord du doigt, on ne peut pas interchanger, transformer, c'est plus compliqué quand
C'est plus.
même.
Parfois, on a quand même des clients hein, qui viennent avec l'alliance de leur grand-père et qui disent bah, « elle me va parfaitement, il y a ce côté symbolique
d'un côté Cendrillon qui est merveilleux.
Exactement, d'un très beau mariage d'un grand-père et d'une grand-mère. Et donc, un petit coup de poli. Et puis, cette alliance, elle repart pour quelques années. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, c'est très personnel. Donc, c'est aussi pour ça que créer une alliance sur mesure, c'est très chouette.
Et je pense que vous devez être influencé quand vous faites de la création par quelqu'un qui vous demande justement et qui vous dit, ben voilà, ça vient de tel endroit, à telle époque. Vous rencontrez des gens un peu étonnants quand même de temps en temps,
oui,
qui vous racontent
sûr.
Leur vie. Parce que, comme je vous ai demandé tout à l'heure, ben, d'où venez-vous? Effectivement, vous venez du Jura, d'une famille de joaillier, de lapidaire d'abord, de gémologue, et donc on parle de sa famille, donc
bien
on
sûr.
A des racines importantes. Donc, est-ce que vous êtes de temps en temps un peu influencé? Vous là, écoutez
on,
beaucoup
on
les gens.
On écoute beaucoup les clients,
voilà,
et c'est pour ça aussi qu'il y a nos collections, mais il y a le sur-mesure, et le sur-mesure, c'est vraiment ce que le client souhaite en réalité. Si la personne... souhaite une alliance demi-jon de, je sais pas, 2 mm en or rose, on va parfaitement aller vers ses envies. Mais si elle cherche, si elle souhaite une alliance torsadée, eh ben, on va faire aussi. Enfin, c'est vraiment écouter. C'est participer aussi à leur bonheur dans ces belles journées qui
Bien
vont
sûr.
Arriver et dans leur vie. Donc, c'est important, en réalité, d'écouter beaucoup les clients.
On va écouter aussi autrement, dans cette émission sur la joaillerie avec Diane Jantet, on va écouter un morceau de musique de Johann Joachim Kantz, qui est un auteur multi-instrumentiste, qui est né bien sûr dans l'électorat de Brunswick, qui était né en 1697 et mort en 1773. Donc vous voyez, un homme qui a eu une grande composition baroque, était flûtiste et membre de l'école de Berlin. Nous allons écouter de Kantz un beau morceau de musique qui est un trio de sonates en sol mineur. J'avais un morceau à vous montrer avant de vous donner celui-ci de Kaiser, mais on en parlera tout à l'heure. Je vous laisse écouter ce trio.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Thank you.
Eh bien, nous venons d'écouter au sein de cette émission Art Bâton Rompu, où je reçois aujourd'hui Diane Jantet, quatrième génération de lapidaire, joaillier, gémologue. Nous venons d'écouter d'un morceau de musique de Johann Joachim Kantz, qui était donc ce compositeur allemand du XVIIe siècle, et qui a travaillé tout le XVIIIe siècle, puisqu'il est mort à Potsdam en 1773. Donc, nous allons continuer et poursuivre cette émission sur Art Bâton Rompu, avec donc Diane Jantet, qui est la dernière génération pour le moment, même si elle a des enfants jeunes, de la génération d'une maison de famille, une joaillerie étincelante depuis quatre générations. Alors Diane, la création,
oui.
Nous étions en train d'en parler, comme votre maman, vous créez.
Oui.
Et donc, vous avez des créateurs contemporains, vous avez...
Forcément, j'ai été bercée par les bijoux anciens. J'ai vu de très belles choses.
Vous avez fait une école pour ça ?
Non, pas encore, parce que c'est une reconversion professionnelle.
Ah oui ?
Je faisais du droit avant.
Très bien, c'est bien. En fait, je dirais, ça vous est tombé comme ça du jour au lendemain
Après la naissance de mon premier enfant.
Ah.
Il est vrai que ça a dû un peu tout chambouler.
Oui, mais ce qui est normal.
Voilà, exactement. Et ma mère m'a ouvert les portes de l'atelier. Et je pense que c'était le bon moment en réalité, parce que si j'y avais été à 18 ans, ça ne serait pas passé forcément comme ça.
De la même manière, oui.
Exactement. Et donc là, j'apprends beaucoup. Je vais faire une école de gémologie aussi en parallèle.
Vous êtes arrivée il y a combien de temps ?
Plus de 5 ans maintenant.
Oui, parce que je vous vois à la boutique quand même, la boutique, pardon, dans votre atelier, depuis un moment.
Mais même avant, parce que j'étais souvent là quand même.
Oui, oui.
Ça fait quelques années que je vous croise
Ah oui, effectivement, effectivement. Oui. Vous croisez, votre mère a dû connaître ma grand-mère, ma mère, maintenant mon épouse ou ma fille, bien sûr, Domitil.
Plusieurs de vos enfants aussi.
Voilà, et maintenant, oui, c'est vrai qu'on a marié tous nos enfants et que les bagues ont souvent été créés chez vous.
Oui, les alliances aussi.
Et les alliances aussi. Mmh. Ah ben on peut parlez-moi par exemple des alliances, qu'est-ce que vous en pensez, puisque on peut parler mariage, effectivement. Vous avez différentes sortes d'alliances.
Oui, comme je vous l'expliquais, on crée sur mesure. Donc il y a les alliances classiques, comme vous portez une alliance demi-jonc. Voilà, exactement. Mais après, il y a tout ce qui est alliance américaine avec des diamants, des alliances un peu plus originales. La mode est allée vers les alliances qui contournaient les bagues de fiançailles aussi. Nous, c'est pas trop ce qu'on met...
Dans votre clientèle ?
Non, et puis l'idée de retirer sa bague de fiançailles et d'avoir une alliance qui est un petit peu difforme, c'est pas forcément de ne pas pouvoir la porter sans sa bague de fiançailles, c'est moins ce que l'on aime. Mais on a, il y a plus de 20 ans maintenant, Marion elle a créé une alliance qui s'appelle l'alliance L'Or, qui est entièrement ondulée.
Oui.
Et ça, ce qui est assez chouette, c'est qu'elle va suivre le mouvement du doigt, et peu importe si on retire sa bague de fiançailles, elle sera toujours... il y aura toujours du mouvement sur le doigt. C'est vrai
permanence.
Que les créations de Marion, je pense que vous en êtes rendu compte, elles sont très ondulées, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de...
Grâce à cette émission, je vais faire un tour un peu plus assidu, parce qu'effectivement, je passe un peu rapidement de temps en temps pour une réparation ou un conseil, mais effectivement, il faut regarder vos créations.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'ondulations, beaucoup de liens avec la nature, en réalité,
ouais.
et parfois des choses tout à fait plus classiques, mais il y a... La nature inspire pas mal
la nature
nos envies.
Inspire.
Oui, beaucoup.
Donc, beaucoup de pierres de couleur.
Oui, énormément.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on aime aussi le diamant. Donc, une bague qui est créée avec des pierres de couleur peut tout à fait être créée avec des diamants aussi.
Alors, vous avez des fournisseurs.
Oui.
Alors, en pierres de couleur et puis...
Oui, le diamantaire et le négociant de pierres de couleur, en général, c'est deux métiers complètement différents, même en pierres fines et pierres précieuses. Mais c'est vrai que comme ça fait plus de 40 ans que Marion fait ce métier maintenant...
Déjà 40 ans ?
Oui.
Votre jeune mère. Ah oui, très bien.
Et elle a tout un réseau maintenant et on la connaît. Ils savent ce qu'elle aime, donc c'est facile. C'est plus facile aujourd'hui.
Et la création, je crois qu'on peut le dire, moi je le vois, elle n'est pas plus chère que ce qu'on achète dans un magasin. Je dirais même moins chère, avec une satisfaction immédiate par le fait que vous avez une écoute de votre part, celle de votre maman. Et puis après, dans la création, tout l'enthousiasme qu'il y a. Quand vous voyez une jolie pierre dans un magasin, vous faites la rue du Faubourg-Saint-Honoré, elle est chose magnifique d'ailleurs. Hein.
Tout à fait.
Pour autant, c'est pas tout à fait la pierre personnelle que vous avez dans la création que vous faites.
Quand on vous présente des pierres et que vous la sélectionnez vraiment, parce qu'il y a ce coup de cœur aussi. Hein, c'est,
bien sûr.
Bien évidemment, quand on va expliquer toutes les caractéristiques de la pierre, sa couleur, sa pureté, mais il y a aussi le coup de cœur pour la pierre et de voir des bijoux déjà montés ou de voir des pierres seules, c'est deux choses différentes.
Totalement différentes. Oui.
Et c'est là aussi où c'est chouette, parce qu'on sait qu'on ne va pas revoir la personne qu'une fois, on va la voir plusieurs fois pendant tout le processus. Et c'est un vrai accompagnement particulier pour célébrer de belles choses, donc c'est très chouette.
Et dans votre création, les gens vous suivent parce que vous les avez écoutés, bien sûr, mais vous avez des gens qui finalement disent « finalement ça ne m'intéresse pas » ou…
Bon, ça arrive, ça comme,
peut, ça
comme
peut arriver,
partout.
Mais sans ça, vous arrivez à les accompagner et ils vous suivent dans la
Oui,
phase.
Et puis si ce n'est pas la première idée, ça peut être la deuxième aussi. Oui. Rien n'est figé,
oui,
en réalité.
Je crois avoir vu dans ma propre famille des choses qui ont été établis au départ chez vous, et finalement, on a fait autre chose à la fin.
Oui, ça c'est
ce qui est naturel.
Ce qui est naturel, en réalité.
Ouais,
chacun a le droit d'avoir des doutes. Surtout pour un bijou aussi important, la bague de fiançailles, les alliances, les bijoux pour les naissances, c'est quand même des bijoux qu'on emporte tous les jours.
Mmh.
Donc, c'est important.
Il y a des... On vous fait des demandes de création un peu étonnantes, non ?
Oui, parfois.
Qu'est-ce que vous avez comme...
On a eu, plutôt que des alliances, des joncs.
Oui.
Donc, mais il fallait créer à partir des initiales de chacun. Donc c'était un M et un S, mais il ne fallait pas que ça se voit trop. Il fallait que les initiales soient l'attache du bijou. Donc il y avait tout le côté technique pour pouvoir ouvrir le jonc grâce aux lettres ou pas, mais il ne fallait pas que ça soit un dessin marqué d'un M et d'un S. Donc ça voilà, c'était une petite chose rigolote. Et après, ça va dépendre. Là, on avait un client qui avait une bague déjà réalisée, mais qu'il avait achetée à l'étranger. Et en fait, ça ne lui plaisait pas du tout. Il nous a demandé de refaire exactement la même, mais pas pareil. Il fallait que les pierres soient vraiment toutes à la même hauteur. Là, il y avait...
Alors que ça formait peut-être un dôme ou...
Ça formait... c'est comme une fleur, mais à plusieurs étages. Et en fait, sa femme trouvait que la bague était trop en hauteur et que ça ne mettait pas assez en valeur les pierres.
Et c'est effectivement beaucoup moins à la mode d'avoir effectivement des cônes ou, je dirais,
c'est
des
ça.
Pierres étagées.
Et donc là, la bague est beaucoup plus étalée sur le doigt et c'est complètement différente. Mais là, on a moins le côté créatif parce qu'on est tenu par les pierres qui, en plus, avaient des tailles différentes, par la pierre du centre aussi, et le modèle. Mais ça va quand même faire une bague différente.
Vous faites aussi de la création de broches ?
Oui, ça revient beaucoup. Pour les hommes, notamment.
Ah tiens, des broches pour les hommes.
Mais non, les broches, en général, là, ça fait quelques temps qu'elles reviennent.
Oui.
Et c'est vrai que les broches, c'est quand même des bijoux qu'on a beaucoup dessertis, parce que souvent, il y avait de très belles pierres de famille dessus, notamment des diamants taille ancienne, qu'on peut retrouver.
Ou même sur les bracelets. Hein.
Et sur les bracelets aussi. Mais c'est vrai que là, les broches reviennent un petit peu sur le tapis rouge. Mais bon,
sur
après,
le tapis rouge, oui.
Je ne sais pas si, plus pour les événements, justement, porter des broches en mariage, c'est sympa.
Et vous faites de la création pour les chevelures aussi ? Non, vous faites... vous avez genre, pas de diadème, mais vous avez des...
On voit des diadèmes de temps en temps
ouais.
qui ont pu justement être dessertis. Enfin, quelques pierres ou la pierre du centre a été dessertie. Mais c'est vrai que si, dernièrement, on a quelqu'un qui est venu faire expertiser un collier. Et en fait, il y avait toute la structure derrière pour pouvoir accrocher un diadème. Donc c'était un très, très beau collier.
Oui.
Mais on sait que cette pièce, elle va être démontée, parce que malheureusement...
C'est plus adapté.
Non.
Ouais. Non, mais on peut faire de très belles transformations.
Bah, surtout quand là, les diamants étaient quand même...
Remarquables.
Voilà, exactement.
Très bien, Diane. Et donc, le bijou se porte bien encore aujourd'hui. Peut-être mieux encore qu'il y a une quinzaine d'années, non ?
Alors, je ne sais pas, je n'étais pas...
Non, non mais votre mère aurait pu vous en parler, mais est-ce qu'il y a une permanence ? Moi, je vois dans les ventes publiques qu'il y a énormément de ventes de bijoux.
Je pense qu'il y a une certaine permanence. On a toujours besoin... Il y a toujours des mariages, il y a toujours des naissances, donc il y a une certaine permanence. Après, post-Covid, il est vrai que les demandes en mariage, il y a eu une petite explosion.
Et, oui.
Ouais, on a eu beaucoup plus de demandes en mariage. Après, ça dépend aussi.
Oui.
Ça dépend des personnes.
Et vous faites quoi comme création quand il y a des baptêmes on fait encore des broches de baptême
Non, ça va être plus des médailles classiques. Quand même.
Ah oui, alors parlons de la médaille. Parce qu'il y a des grands sculpteurs en médaille.
Oui, tout à fait. Hein? Nous, on travaille avec la maison Becker.
Bien sûr, Becker.
Voilà, c'est quand nos clientes nous demandent des médailles, on passe par eux parce que ça reste. C'est des très, très belles médailles et.
C'est
Il y a
vrai,
beaucoup de choix.
C'est très bien sculpté en demi-relief. C'est très beau, Becker.
C'est joli, oui, très beau.
Donc, vous travaillez avec eux. Vous faites de la création aussi ?
Ça peut être le bracelet pour la grand-mère avec toutes les médailles. Pareil, oui, on fait de toute façon.
C'est ça, la gourmette, la grande gourmette classique avec
toutes les médailles,
les médailles
des petits-enfants, des enfants. Tout à fait.
Vous avez une création qui vous plaît plus que votre maman, ou vous faites à peu près la même chose, des colliers, des sautoirs?
Non, on fait à peu près la même chose. C'est vrai que ça va être... Alors, peut-être que Marion fait plus de boucles d'oreilles que moi.
Alors, les boucles d'oreilles, oui, on n'en a pas parlé de ça. Je ne parle pas de ce que maintenant on voit de temps en temps, des bijoux accrochés au nez ou une multitude.
On peut avoir des demandes de création de piercing sur mesure, mais bon, après, c'est vraiment...
C'est pas tout à fait votre genre, je crois.
Non,
c'est... Ni le genre de la maison de Radio Courtoisie. Mais tout ça pour dire que oui, les boucles d'oreilles. Oui, alors.
Boucles d'oreilles. Bah, après, que pouvons-nous dire sur les boucles d'oreilles ? Non, c'est très féminin, donc c'est vrai qu'on peut tout à fait accompagner nos clientes sur une paire classique avec des perles. Beaucoup pour les communions, les baptêmes aussi.
Ouais.
Enfin, pas les baptêmes, plutôt les communions ou après. Les premières perles offertes par la grand-mère. Ou les diamants aussi. Enfin, il y a à la fois la transmission avec les pierres de famille ou les perles de famille. Ou aussi la création sur mesure, la volonté d'offrir des bijoux.
Des bijoux à des occasions. Mais, vos créations, quand même, sont scandées par la religion, entre guillemets, pour beaucoup. Puisque, en fait, vous parlez baptême, vous parlez aussi mariage.
C'est les événements de la vie.
Exactement.
Les naissances aussi.
Voilà.
Beaucoup. La mort aussi, parfois, parce qu'on a des successions aussi où il faut, comme vous,
bien sûr,
partager les bijoux.
Oui, bien sûr. On vous demande des partages de temps en temps.
Oui, de temps en temps.
Oui.
Quand il y a beaucoup de bijoux et qu'il y a l'affect du bijou, forcément, il faut les séparer. Donc,
Et vos clients connaissent d'abord par relation, finalement.
Beaucoup.
Hein?
Ouais. Beaucoup de bouche à oreille.
C'est beaucoup de bouche à oreille. La réputation.
La réputation.
Et la confiance.
Tout à fait. Votre fille en fait partie. Elle nous,
oui, c'est
nous
vrai.
Fait bonne pub.
C'est vrai qu'on aime bien une maison traditionnelle qui fait à la fois... La réparation, la transformation et de la création.
C'est ça, tout à fait.
Et donc, quelle est votre prochaine collection ?
Le mariage et remettre en avant les perles, justement.
C'est ça.
Oui, vraiment, là, c'est l'année 2026.
Vous êtes sur la perle.
On est sur la perle.
Et alors là, vous faites quoi ? Des broches ? Là aussi, on n'a pas parlé de broches.
Non, pas de broches. Je sais que Marion est en train de créer une broche, mais un peu plus originale, avec des pierres gravées.
Oui. Des pierres gravées.
Oui.
Alors, parlez un peu de l'iptique, alors.
Alors, les pierres... Alors, là, en l'occurrence, c'est des tourmalines, donc des pierres fines, qui ont des couleurs... Alors, l'avantage de la tourmaline, c'est qu'elle a un panel de couleurs incroyables. Donc, on peut aller du bleu au vert, au rose, au jaune, au orange.
Exactement.
Et là, celles-là, elles ont la particularité d'avoir été taillées donc, par un lapidaire en forme de feuille.
Oui.
C'est assez original.
Et c'est grand comme quoi ? C'est quelques...
Je dirais un centimètre.
Un centimètre, oui.
Voilà.
Un centimètre.
Et donc, là, il est en train de créer une tête d'Indien. C'est un peu original, en forme de broche. Voilà.
Très bien.
Il y a aussi un côté... Voilà, c'est...
Oui.
Mais alors... on a c'est vrai qu'il va falloir que vous veniez un peu plus voir les vitrines.
Je vais venir avec
mais
nos auditeurs.
On a autant les pierres gravées, donc les feuilles. On crée des bagues avec ces feuilles gravées. C'est la nature en soi. Que les perles, donc le monde de la perle, le monde des pierres précieuses avec la mise en avant des couleurs et tout ça. Donc c'est assez varié. C'est vrai, dans les collections... Nos clientes peuvent beaucoup s'inspirer justement des pièces en vitrine, parce qu'il y a beaucoup de choses
à découvrir. Vous avez de temps en temps aussi des clients qui vous demandent des chevalières avec des pierres de couleur.
Oui, ça arrive aussi, des pierres gravées justement
pierres
avec
gravées.
Les armoiries. Donc,
souvent, oui.
On en a quelques-unes, oui, bien sûr.
Oui, parce que je me souviens, vous faites indirectement de la gravure aussi sur...
Aussi.
Sur or, mais sur les pierres aussi.
Tout à fait. Bah, les chevalières avec gravures.
Pas mal de chevalières aussi.
Oui, bien sûr. Et là, ça va être souvent les grands-parents ou les parents qui offrent la chevalière au petit-fils, au fils, ou quand il y a un mariage, le fiancé.
Bien sûr.
Voilà. Donc,
c'est un métier bien réjouissant. Et donc... Donc, vous allez faire une exposition, et donc vous en faites quoi, une ou deux par an?
En général, on en fait deux par an.
Deux par an.
Une un peu avant Noël et une un peu avant les fêtes des mères.
Ah oui, parce que comme ça, vous avez une clientèle qui vient vous...
qui vient bichonner les mamans. Et,
et vous avez des gens qui vous apportent des bijoux que vous allez vendre ou que vous allez transformer,
aussi.
Mais oui, vendre aussi, également.
Aussi, oui. Ben, le bijou n'est pas signé ou en salle des ventes, il ne fera pas plus que le cours de l'or. Donc là, on va s'en occuper pour eux. Donc, on va vendre l'or ou le réutiliser pour les bijoux qu'ils vont vouloir faire. Donc ça fait comme une petite cagnotte en réalité pour pouvoir acheter un bijou ou créer un bijou sur mesure. Ou sinon après...
Vous pouvez les passer en vente éventuellement.
On les passe en vente souvent avec vous d'ailleurs.
Ça arrive.
Voilà, y a la confiance, le travail en commun.
Et puis que ce sont des objets nature, des beaux objets et que les gens apprécient. Et
exactement.
Ça repart dans le commerce.
Et ça repart dans le commerce. C'est tout l'intérêt aussi du bijou, c'est-à-dire que l'or se fond à l'infini et les pierres sont réutilisées aussi. C'est très important, cette seconde vie aussi des pierres.
Les pierres d'aujourd'hui, les pierres de couleur, vous les importez de l'étranger ou c'est essentiellement ?
Très souvent.
Ah oui, bien sûr,
quand même,
les mondes de Colombie, oui.
Ouais.
Et vous avez donc des importateurs que vous connaissez depuis très longtemps.
Tout à fait.
Ça.
C'est ça.
Et le marché est comment sur justement l'importation?
C'est un petit peu compliqué en ce moment. Enfin, l'importation non, mais les pierres, enfin, c'est comme partout en réalité. C'est en dents de scie. On est quand même tenu avec le cours de l'or aujourd'hui.
Oui, là, vous avez dû prendre un petit peu de retrait par rapport aux gens qui viennent peut-être vous voir, ou alors ils veulent utiliser.
Ils utilisent l'or. On a beaucoup de personnes qui utilisent leur or justement.
Ah oui.
Donc pareil, ça repart dans le
système. Ça repart dans le système, dans le circuit.
Dans le circuit, exactement.
Très bien. Diane, vous voulez conclure de quelle manière en disant que vous êtes passionnée par ce que vous faites?
J'ai beaucoup de chance déjà de travailler avec ma mère.
Oui,
que notre...
comme moi, je suis contente de travailler avec ma fille.
Exactement. Et c'est un plaisir de découvrir de si belles choses et de créer avec nos clients. Et quand même, une chose à rappeler, c'est qu'il faut faire attention, comme vous l'avez dit, les bijoux, on les porte tous les jours. Et souvent, c'est des pierres auxquelles on tient ou des colliers de perles auxquelles on tient parce qu'ils nous ont été transmis. Donc, une petite révision de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
Il faut réviser, il faut être attentif à ça, comme le dépôt de la foi ou le dépôt moral ou spirituel, comme je viens de dire. Marion, donc votre chère mère viendra peut-être une prochaine fois.
Avec
peut-être
grand plaisir,
que
peut-être.
Vous solliciterez votre grand-mère.
Hein, aussi.
Et on aura trois générations qui pourront continuer de nous parler de cela. J'espère que cette émission vous a plu. On va terminer sur un morceau de musique. Mais avant, je vais remercier bien sûr Diane. Alors Diane, vous avez des enfants?
Oui.
Mais deux petits garçons.
Deux petits garçons.
Donc ils sont encore un peu jeunes pour
un
se
peu, mais ils aiment les bijoux aussi. Hein. Ils me demandent, le plus petit qui a 4 ans me demande une bague originale, mais je pense que c'est le fait de me voir aussi et d'en créer. Donc,
bien sûr, avec une maman élégante et qui paraît de ses plus beaux atours, c'est une belle chose. Mais écoutez Diane, moi je vous remercie beaucoup, j'espère que cette émission aura plu à nos auditeurs. Je les retrouverai dans un mois, probablement sur un thème avec un expert sur l'art déco art nouveau, donc à la fois sur le mobilier, sur la verrerie, je pense qu'on parlera de tout ça au mois de décembre. Je remercie bien sûr Benoît pour la technique, qui est toujours fidèle, efficace et très agréable. Et on va terminer sur un morceau de musique d'un artiste compositeur allemand de musique baroque qui s'appelle Reinhard Keiser, lequel a vécu de 1674 à 1739. Nous allons écouter un beau morceau d'un extrait dont de Der Hormenidisch Gershut und Weinder Annebe Kreuzus. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore.
venez d'entendre le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine Art battant rompu, dirigé par Olivier Doutrebente, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 4 novembre 2025 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.